Chapitre 7. Rêve et réalité.
Le coffre à rêve a disparu.
Malta regarda tour à tour sa mère et sa grand-mère qui la dévisageaient, les traits graves, et elle écarquilla les yeux.
Comment est-ce possible? T'es sûre?
Sa mère répondit d'un ton calme.
J'en suis tout à fait certaine.
Malta finit d'entrer dans la salle et s'assit à sa place habituelle à la table du petit déjeuner, puis elle souleva le couvercle du plat posé devant elle.
« Oh non, encore du gruau! Nous ne sommes quand même pas pauvres à ce point! Comment le coffre pourrait-il avoir disparu ?»
Elle leva le regard et rencontra celui des deux femmes toujours braquées sur elle. Sa grand-mère plissa les yeux et dit «
Je pensais que tu aurais peut-être une idée.
C'est maman qui l'avait. Elle ne me l'a pas donné, c'est même à peine si elle m'a permis de le toucher,
répliqua Malta.
Est-ce qu'il y a des fruits ou de la confiture pour accompagner cette bouillie?
Non. Si nous voulons payer nos dettes à leurs échéances, nous allons devoir vivre de façon frugale pendant un certain temps. On te l'a déjà expliqué.
Malta poussa un soupir.
« Pardon, »
fit-elle d'un air contrit.
« J'oublie quelquefois notre situation. J'espère que papa ne tardera plus à rentrer. Quel plaisir quand tout sera normal comme avant !»
Elle regarda de nouveau sa mère et sa grand-mère en essayant de sourire.
« En attendant, nous devons nous estimer heureuses de ce qui nous reste, j'imagine. »
Elle se redressa sur sa chaise, se composa une expression satisfaite et prit une cuillerée de gruau.
« Ainsi, tu ne vois pas où pourrait être passé ce coffret ?»
demanda sa grand-mère. La jeune fille fit un signe négatif de la tête en avalant sa bouchée.
« Non, à moins que... Avez-vous demandé aux domestiques si elles l'ont déplacé en faisant le ménage? Nounou ou Rack, c'est peut-être quelque chose ?»« Il était bien rangé. Je ne l'avais pas laissé là où on aurait risqué de le déplacer. » Il a fallu que quelqu'un s'introduise dans ma chambre et la fouille pour trouver la boîte. « Est-ce qu'il manque autre chose ?»
demanda vivement Malta.
« Non, rien. »
La jeune fille avala une nouvelle cuillerée de gruau, l'air pensif.
« Est-ce qu'il aurait pu disparaître, tout simplement ?»
fit-elle avec un sourire incertain.
« Je sais, ça paraît ridicule, mais on entend tellement d'histoires extravagantes sur les produits du désert des pluies qu'on finit par croire tout possible au bout d'un moment.
« Non, il ne peut pas avoir disparu, » répondit sa grand-mère d'une voix lente. « Même si on l'avait ouvert, il ne se serait pas évanoui en fumée.
« Comment en sais-tu aussi long sur les coffres à rêves ?»
demanda Malta avec curiosité. Elle se versa une tasse de tisane qu'elle sucra avec du miel en attendant une réponse.
« Une de mes amies en a reçu un autrefois. Elle l'a ouvert et a fait le rêve contenu. Puis, elle a accepté la cour du jeune homme, mais il est mort avant leur mariage, et je crois qu'elle a épousé son frère quelques années plus tard.
« Pouah !»
fit Malta. Elle prit une cuillerée de gruau et poursuivit.
« Je ne me vois vraiment pas épouser quelqu'un du désert des pluies, même s'ils nous sont apparentés à ce qu'on dit. Tu imagines embrasser un homme tout couvert de verrues ? Ou partager ton petit déjeuner avec lui?
Il n'y a pas que l'apparence qui compte chez les hommes,
fit sa grand-mère d'un ton glacé.
Quand tu auras compris cela, peut-être commencerai-je à te traiter en adulte.
Et son regard désapprobateur se porta sur sa fille.
Eh bien, qu'allons-nous faire?
La mère de Malta secoua la tête.
Avons-nous le choix? Nous allons expliquer, le plus poliment du monde, que le cadeau s'est égaré avant que nous puissions le rendre, mais que nous ne pouvons pas accepter la cour proposée parce que Malta est beaucoup trop jeune.
Nous ne pouvons pas leur dire que nous avons égaré leur cadeau, c'est impossible,
s'exclama Ronica.
Quoi d'autre alors? Leur mentir? Répondre que nous l'acceptons mais que nous refusons la cour? Prétendre que nous ne l'avons pas reçue et nous désintéresser de la question?
À chaque suggestion, le ton de Kefria devenait plus ironique.
« Non, nous n'en aurions l'air que plus ridicule encore. Comme je suis responsable, c'est moi qui me chargerai de rédiger la lettre et qui porterai le poids de la faute. J'expliquerai que j'avais rangé le coffret dans un lieu que j'estimais sûr, mais qu'il avait disparu le lendemain matin, et je présenterai mes plus plates excuses en proposant de réparer. Mais je refuserai aussi la demande de cour, en soulignant avec toute la délicatesse possible qu'elle n'est guère séante pour une enfant aussi jeune.
Elle n'a rien d'inconvenant selon les critères du désert des pluies, objecta Ronica, et surtout selon ceux des Hoprous. Leur fortune est légendaire, et pour l'auteur de l'envoi, le coffret ne devait pas avoir plus de valeur qu'une simple babiole.
Peut-être devrions-nous le marier à Malta dans ce cas, fit Kefria d'un air facétieux. Un jeune homme qui roule sur l'or, voilà qui ne ferait pas de mal à notre famille en ce moment.
« Maman !»
s'exclama sa fille, agacée. Ce genre de plaisanterie n'était pas du tout de son goût.
« Je ne parlais pas sérieusement, Malta. Ne prends pas la mouche pour si peu. »
Kefria se leva de table.
« Bien. Rédiger cette lettre ne va pas être une mince affaire. Et il me reste peu de temps si je veux la remettre au Kendri avant son départ. Il faut que je me mette au travail. »
« Assure-les que... « Si nous retrouvons le coffret, nous le rendrons, » dit sa mère.
« Naturellement. J'ai d'ailleurs l'intention de passer à nouveau ma chambre au peigne fin. Mais je dois d'abord m'atteler à cette lettre avant que le Kendri lève l'ancre. »
Et elle sortit à pas pressé.
Sa fille voulut porter à sa bouche l'ultime cuillerée de gruau de son bol, mais elle ne fut pas assez rapide.
« Malta, »
fit sa grand-mère d'un ton posé mais ferme, « je tiens à te demander, une dernière fois, si tu as pris le coffret dans la chambre de ta mère. »
« Non, réfléchis avant de répondre. Réfléchis aux conséquences sur l'honneur de notre famille, sur ta réputation. »
« Réponds sincèrement, et je te promets de ne pas te réprimander de ton mensonge précédent. »
Elle se tut et retint sa respiration en observant Malta avec le regard fixe d'un serpent. Sa petite fille reposa sa cuillère.
« Je n'ai rien pris du tout, »
déclara-t-elle d'une voix tremblante.
« Comment peux-tu me croire capable d'une chose pareille? Que t'ai-je fait pour que tu m'accuses sans cesse? Oh, que je voudrais que papa soit là, qu'il voit comment on me traite en son absence. » Ce n'est sûrement pas l'existence qu'il aurait voulu pour son unique fille.
Non. Il t'aurait déjà vendu aux enchères comme un veau gras,
répondit sèchement sa grand-mère.
Ne joue pas les enfants martyrs avec moi. Ton père s'y laisse peut-être prendre, mais pas moi. Je te le dis sans détour. Si tu as pris le coffre à rêve et que tu l'es ouvert, tu nous mets déjà dans une situation dont nous allons avoir du mal à nous tirer. « Mais si tu persistes à mentir et à conserver cet objet... »« Oh, Malta, tu ne peux pas te moquer d'une demande de cour déposée par une des plus puissantes familles de marchands du désert des pluies. L'heure n'est plus à tes petites gamineries. Nous sommes financièrement au bord du gouffre, et tout ce qui empêche notre chute jusqu'ici, c'est la réputation que nous avons de toujours tenir parole. » Nous ne mentons pas, nous ne trichons pas, nous ne volons pas et nous payons nos dettes sans nous défiler. Mais si cette confiance disparaît, si on commence à dire que nous ne respectons pas nos promesses, nous sommes perdus, Malta, perdus. Et malgré ta jeunesse, tu devras toi aussi participer au règlement des dommages.
Malta se leva lentement et jeta sa cuillère afin qu'elle tinte violemment sur son assiette.
« Mon père va bientôt rentrer, la bourse pleine d'un argent durement acquis, et il remboursera tes dettes. Il nous évitera la ruine à laquelle ton entêtement nous a menés. Nous n'aurions pas de problème si grand-père avait commercé sur le fleuve du désert des pluies comme n'importe quel propriétaire de Vivnef. Si tu avais écouté Davad, si tu avais vendu les terres alluviales, ou si tu les lui avais au moins louées pour qu'il y fasse travailler ses esclaves, nous ne nous trouverions pas dans la situation dont tu parles. Ce n'est pas mon obstination qui met notre famille en danger, c'est la tienne. »
D'abord sévère, les traits de Ronica avaient peu à peu pris une expression choquée, et ses lèvres serrées avaient blanchi sous l'effet de la colère.
« Écouterais-tu aux portes, ma chère petite fille ?
pour connaître les derniers mots d'un mourant à son épouse. Je pensais bien des choses sur toi, Malta, tant en bien qu'en mal, mais je n'aurais jamais cru que l'indiscrétion faisait partie de tes défauts. »
Malta hocha la tête d'un air glacial, puis répondit d'un ton suave.
« On m'a pourtant expliqué que c'est ainsi qu'on devient une femme dans cette maison. En se tenant au courant des finances et des placements de la famille, en guettant à la fois les risques et les occasions. Mais j'ai l'impression que tu préfères sauter sur n'importe quelle occasion de tenir mon père à l'écart. Tu ne le considères pas vraiment comme un membre de notre famille, n'est-ce pas? Oh, bien sûr, pour te donner des petits-enfants et satisfaire maman, il est parfait. Mais tu ne veux rien de lui à part ça, parce qu'alors, il risquerait de mettre en péril tes propres projets. Garder tout le pouvoir pour toi, toute seule, quitte à ruiner la famille. »
Malta ignorait l'intensité de sa rancœur avant de s'entendre la cracher comme du venin. D'une voix vibrante de colère, sa grand-mère riposta.
« Si ton père ignore nos coutumes, c'est parce qu'il n'a jamais pris le temps de s'y intéresser. Sinon, je ne serais pas aussi inquiète du pouvoir qu'il détient déjà, Malta. »
Elle reprit son souffle.
« Tu viens de me démontrer que tu comprends bien plus de choses que je ne m'en doutais. Si tu nous l'avais laissé voir plus tôt, peut-être ta mère et moi t'aurions-nous considéré plus comme une adulte que comme une enfant. Maintenant, écoute-moi bien. Quand ton grand-père est mort, j'aurais pu assurer ma mamie sur la direction de la famille bien davantage que je ne l'ai fait. Il souhaitait que le navire revienne à Altea, non à Kefria et ton père. Et c'est moi qui l'ai convaincu que Kyle ferait un bien meilleur commandant. Aurais-je agi de cette façon si je désirais garder le pouvoir pour moi seul, si je refusais ton père comme un membre à part entière de la famille? Non, je croyais en sa fermeté et en son discernement. Mais hériter ne lui a pas suffi. Il s'est mis en tête de tout bouleverser, sans comprendre vraiment ce qu'il modifiait, ni en quoi les changements qu'il opérait étaient malvenus, et sans jamais nous consulter. Seul comptait désormais sa volonté, et ses idées étaient obligatoirement les meilleures. Je ne le tiens pas dans l'ignorance de ce que nous sommes, Malta. Son ignorance est une forteresse qu'il a bâtie lui-même et qu'il défend bec et ongle. »
Malta écoutait, mais presque malgré elle. Sa grand-mère était trop rouée pour elle. Elle savait que son discours était émaillé de mensonges, qu'elle faussait la vérité sur son père, ce héros vaillant et intrépide. Mais elle n'avait pas assez d'expérience pour mettre le doigt sur la duperie. Aussi, elle se força à sourire.
« Dans ce cas, tu ne verras pas d'inconvénient à ce que je lui fasse part de ce que je sais pour combler cette ignorance qui te déplaît tant ? Tu ne verras pas d'inconvénient à ce que je lui révèle qu'il n'existe aucune carte du fleuve du désert des pluies sur lequel la vive nef, une fois éveillée, se repère sans l'aide de personne. Il est de mon devoir de le tirer de son ignorance, n'est-ce pas ? »
Malta surveillait l'expression de sa grand-mère afin de voir comment elle allait réagir en s'apercevant que sa petite fille était au courant de ses secrets. Mais la vieille femme demeura impassible et secoua la tête.
« Tu profères des menaces, ma petite, sans te rendre compte que tu te mets toi-même en danger. Il y a un prix à payer et des risques à encourir quand on veut traiter avec les marchands du désert des pluies. Ce sont nos parents, je ne dis pas de mal d'eux, et je respecte les termes des marchés que nous avons passés avec eux. Mais il y a bien longtemps, Ephron et moi avons décidé de ne pas en conclure de nouveau, de ne plus nous engager auprès d'eux, parce que nous voulions que nos enfants et nos petits-enfants, oui, même toi, restent libres de leurs décisions. À cause de cela, nous avons vécu plus difficilement que nous n'y étions obligés. Et nous n'avons pas remboursé nos dettes aussi rapidement que nous l'aurions pu, mais ce sacrifice ne nous pesait pas. »
La voix de Ronica se mit à trembler légèrement.
« Ce sacrifice, nous l'avons fait pour toi, petit chat qui crache et feule, et quand je te regarde, je me demande pourquoi. C'est l'eau saumâtre de Calcède qui coule dans tes veines, pas le sang de Terrilville. » Là-dessus, elle se détourna et s'enfuit de la salle. Sa retraite n'avait ni dignité ni force, et Malta comprit qu'elle avait gagné. Elle avait obligé sa grand-mère à baisser les yeux devant elle une fois pour toutes, et sa mère et elle devraient désormais la traiter différemment. Elle avait remporté la partie. Elle avait prouvé que sa volonté était aussi forte que celle de sa grand-mère, et elle se moquait bien de ces histoires de sacrifices qu'elle aurait fait pour elle. Ce n'était que des mensonges, rien que des mensonges. Des mensonges. C'était de là que tout était parti. Elle n'avait pas eu l'intention de mentir à propos du coffret. Et elle se serait tenue à sa décision si sa grand-mère n'avait pas affirmé avec tant de certitude que Malta avait volé le présent. Si Ronica Vestrit avait exprimé le moindre doute sur sa culpabilité, Malta lui aurait avoué la vérité. Mais à quoi bon, quand on a affaire à des gens convaincus d'avance qu'on a un mauvais fond, quand la vérité ne peut que les en persuader davantage? Autant mentir doublement et endosser le rôle de la menteuse et de la voleuse que sa grand-mère non seulement l'accusait d'être, mais espérait qu'elle était. Oui, telle était la réalité. Pour sa grand-mère, il fallait que Malta eût une nature dépravée afin de justifier la façon ignoble dont elle-même traitait son beau-fils. Tout était de la faute de sa grand-mère. Quand on traite mal les gens, ça vous retombe sur le nez. « Malta, » fit une voix très douce, très délicate. Une main vint se poser tendrement sur son épaule. « Allez-vous bien, ma chérie ?» Malta se retourna brutalement, s'empara de son bol de gruau et le jeta violemment aux pieds de Rack.
« J'ai horreur du gruau. Ne m'en servez plus jamais. Je me fiche de ce que vous me préparez d'autre, mais je ne veux plus de gruau. Et ne me touchez pas. Vous n'en avez pas le droit. Nettoyez le sol et laissez-moi tranquille. »
Elle écarta la femme abasourdie de son chemin et sortit de la salle comme une furie. Ces esclaves, quels abrutis! Ils ne comprenaient rien à rien.
Parangon, il faut que nous parlions.
Ambre avait passé l'après-midi en sa compagnie. Une lanterne à la main, elle avait exploré l'intérieur de sa coque, traversé lentement ses cales, la cabine du capitaine, la chambre de navigation, tous ces compartiments les uns après les autres, tout en posant d'innombrables questions, certaines auxquelles il répondait, d'autres auxquelles il ne voulait pas ou ne pouvait pas répondre. Elle était tombée sur les affaires qu'avait laissées Brashen, et sans gêne les avait arrangées à sa propre convenance.
« Un de ces soirs, je viendrai passer la nuit avec toi, d'accord ?»
avait-elle proposé.
« Nous ne nous coucherons pas et nous échangerons des histoires jusqu'à l'aube. » La moindre découverte la passionnait. Une bourse contenant 2 dés encore enfoncée dans une fente du bois, là où un marin l'avait cachée afin de pouvoir jouer pendant son quart sans se faire prendre, un message gravé dans une cloison. « 3 jours que ça nous garde. » Elle avait voulu savoir qui l'avait écrit et pourquoi. De même, sa curiosité avait été fort éveillée par les grandes taches de sang. Allant de l'une à l'autre, elle en avait compté 17 sur le pont et dans diverses cales. Il y en avait 6 autres qu'elle n'avait pas repérées. Mais Parangon n'avait rien dit et il avait refusé, malgré l'insistance d'Ambre, de se rappeler le jour où ce sang avait été versé et le nom de ceux qui étaient tombés. Dans la cabine du capitaine, elle avait trouvé le placard fermant à clé qui aurait dû contenir ses journaux de bord, mais qui était vide. Il y avait beau temps que le verrou avait été fracassé et la porte de bois défoncée et tordue, et les journaux de bord qui auraient dû constituer la mémoire de Parangon avaient disparu, tous volés. Ambre s'était accrochée à cette découverte comme une mouette à un cadavre. Était-ce pour cela qu'il ne répondait pas à toutes ces questions? Avait-il besoin de ces documents pour se souvenir? Oui, mais alors, comment faisait-il pour se rappeler les visites d'Ambre ou de Minxley? Il n'y en avait aucune note dans aucun journal de bord. Il avait haussé les épaules. D'ici une dizaine d'années, quand tu ne t'intéresseras plus à moi et que tu auras cessé de venir me voir, je t'aurai moi aussi oublié sans doute. Tu ne te rends pas compte que tu m'interroges sur des événements qui ont eu lieu probablement avant ta naissance. Tiens, parle-moi de ton enfance. Quel souvenir as-tu de tes premières années ?
Je n'en ai guère. Elle changea brusquement de sujet.
Sais-tu ce que j'ai fait hier ? Je suis allée chez Davad Restart pour lui proposer de te racheter.
À ces mots, Parangon se tut, puis il répondit d'un ton glacial.
Davad Restart ne peut pas me vendre parce que je ne lui appartiens pas. D'ailleurs, on ne vend pas et on n'achète pas une vive nef, sauf entre membres d'une même famille, et seulement dans les plus extrêmes des circonstances.
Ce fut au tour d'Ambre de garder un moment le silence.
Quoi qu'il en soit, je pensais que tu voudrais être au courant. Et si ce n'est pas le cas, tu devrais, parce que tu es concerné au premier chef. Parangon, il circule depuis des mois chez les nouveaux marchands une rumeur selon laquelle tu serais à vendre, et Davad Restart joue les intermédiaires dans l'affaire. Au début, ta famille stipulait que tu ne devais plus servir en tant que navire parce qu'elle ne voulait pas être responsable de nouvelles morts.
La voix d'Ambre mourut.
Parangon, puis-je te parler franchement ? Parfois, tu parais si réfléchi et plein de discernement, tandis qu'à d'autres moments...
Ainsi, tu as proposé de m'acheter ? Pourquoi ? Que veux-tu faire de mon corps, des perles, des meubles ?
Il se maîtrisait à grand-peine, et ses questions avaient le tranchant de l'ironie. Comment osait-elle ?
Non,
répondit-elle avec un gros soupir. Presque en aparté, elle murmura.
Je le craignais.
Elle prit une grande inspiration.
Je te laisserai tel que tu es, là où tu es. Telles étaient les conditions de mon offre.
Enchaînée ici, échouée pour toujours, bombardée de fientes de mouettes, le sable sapé sous moi par les crabes, gisant ici jusqu'à ce que tout ce qui n'est pas en bois sorcier en moi se décompose et que je m'effondre en hurlant.
Parangon !
Cria Ambre d'une voix où la douleur le disputait à la colère.
Cesse, cesse tout de suite. Jamais je ne te laisserai exposer à un tel sort. Tu devrais le savoir. Écoute-moi, laisse-moi parler jusqu'au bout, parce que je crois avoir besoin de ton aide. Mais si tu nourris dès maintenant des soupçons infondés et que tu lances des accusations échevelées, je ne pourrai pas t'aider. Or, j'y tiens plus que tout.
Sa voix s'était radoucie sur ces derniers mots, et elle reprit son souffle.
Alors, vas-tu m'écouter ? Vas-tu me laisser au moins une chance de m'expliquer ?
Explique-toi, dit-il d'un ton froid.
Qu'elle mente. Qu'elle trouve des prétextes, qu'elle trompe et trahisse. Il écouterait ses discours et y glanerait de quoi se défendre contre elle, contre tout le monde.
Oh, Parangon,
fit-elle d'une voix rauque en plaquant la main sur sa coque. Il s'efforça de ne pas prêter attention à son contact, de ne pas vibrer à l'unisson de la grande émotion qu'il sentait en elle.
L'élu de chance, ta famille sont dans une mauvaise passe, dans une très mauvaise passe, comme c'est le cas pour beaucoup de familles de premiers marchands. Les facteurs en cause sont nombreux. L'esclavage, les guerres du Nord, mais cela ne nous intéresse pas. Ce qui compte, c'est que ta famille a un besoin pressant d'argent, que les nouveaux marchands le savent et qu'ils cherchent à t'acheter. N'en veuille pas au lieu de chance. Ils ont résisté à bien des offres d'achat. Mais quand les sommes proposées ont dépassé un certain seuil, ils ont spécifié qu'ils ne pouvaient te vendre à personne qui désirait se servir de toi comme moyen de navigation.
Il eut l'impression de l'avoir secoué la tête.
Pour les nouveaux marchands,
Cela signifiait seulement qu'il voulait plus d'argent, beaucoup plus, avant d'accepter de te vendre comme navire. »
Elle reprit son souffle et s'efforça de poursuivre sur un ton plus calme.
« C'est à ce moment-là que j'ai entendu une rumeur selon laquelle seule une vive nef est capable de remonter le fleuve du désert des pluies et d'en revenir intacte grâce au bois sorcier, inattaquable par les flux blancs et caustiques qui descendent parfois le fleuve, ce qui ne paraît pas incroyable si on considère le temps que tu as passé sur cette plage sans pourrir, et qui permet de comprendre pourquoi des familles s'endettent pour plusieurs générations afin de posséder un navire tel que toi. C'est le seul moyen de participer aux affaires qui se traitent le long du fleuve. Aussi, maintenant que la rumeur s'est répandue, les offres d'achat ont encore augmenté, et les nouveaux marchands qui font des propositions sur toi promettent de ne s'en prendre à personne si tu chavires à nouveau, et surenchérissent les uns sur les autres. »
Elle se tut un instant.
« Parangon, tu m'entends ? »
demanda-t-elle à mi-voix.
« Oui, »
répondit-il, contemplant l'océan de ses yeux aveugles, et il ajouta d'un ton monocorde.
« Continue. » « Oui, je vais continuer. Mais parce qu'il faut que tu sois au courant, non parce que j'y prends plaisir. Jusqu'ici, les Luchans ont refusé toutes les offres. Peut-être ont-ils peur d'être mal vus par les autres premiers marchands s'ils te vendent, ouvrant ainsi la voie du commerce du fleuve aux nouveaux venus. Les produits de ce commerce sont le dernier bastion encore intact des marchands de Terrilville. Peut-être aussi, bien qu'ils t'aient laissé à l'abandon, éprouvent-ils encore envers toi le sentiment d'un lien familial? Je leur ai donc fait une offre, pas aussi élevée que celle des autres acheteurs potentiels, parce que je ne possède pas leur fortune, mais, jointe à ma proposition, il y avait la promesse de ne pas te réarmer et de ne pas te faire renaviguer, car je pense que les luttes chance tiennent encore à toi, et que, aussi curieux que cela puisse paraître, il te laisse échouer ici afin de te protéger. Oh, c'est vrai. Depuis longtemps, Terrilville a sa façon à elle de traiter ses fous et ses difformes. On couvre de chaînes ses parents excentriques et on les enferme dans un galta, une cave, enfin là où ils ne dérangent pas.
Il eut un rire amer.
Songe aux marchands du désert des pluies, par exemple.
Qui ça?
Eh oui, qui ça? Nul ne les connaît, nul ne sait rien d'eux, nul ne respecte les anciens serments qui nous lient à eux, toi et moi, encore moins que les autres. Mais poursuis donc, je t'en prie. Après m'avoir acheté, ne pas m'avoir accastillé ni remis à la mer, que me réserverais-tu d'autre?
Ah, oh, parangon!
S'exclama-t-elle d'un ton soudain accablé.
Si cela ne tenait qu'à moi, si je pouvais rêver comme un enfant, en étant sûr que mes rêves se réaliseraient, je ferais venir des artisans qui te redresseraient et te bâtiraient un berceau pour te maintenir droit, puis je viendrais moi-même habiter à ton bord. Sur les falaises qui te surplombent, je créerais un jardin odorant et coloré, un jardin plein d'oiseaux et de papillons, avec de grandes plantes grimpantes qui retomberaient jusqu'à la plage, avec des fleurs aux parfums suaves. Tout autour de toi, je sculpterai les rochers, j'aménagerai des bassins, qu'emplirai la marée, et je les peuplerai d'étoiles et d'anémones de mer, et aussi de petits crabes rouges vifs. »
Elle se laissait emporter par sa vision, et sa voix s'enflammait peu à peu.
« Je vivrai en toi, j'y travaillerai, et le soir, je dînerai sur le pont et nous échangerions nos impressions sur la journée. Et si je me laissais aller encore davantage, je rêverais de trouver un jour du bois sorcier que je saurais travailler avec assez d'habileté pour te rendre tes yeux et la vue. Le matin, tu regarderais le soleil se lever sur la mer. Et le soir,
nous contemplerions son coucher derrière notre jardin de la falaise. Je dirais au reste du monde, « Faites ce qui vous chante, car j'en ai fini avec vous. Détruisez-vous mutuellement ou prospérez, ça m'est égal tant que vous me laissez tranquille. Alors, nous serions heureux, tous les deux ensemble. »
Pendant un moment, Parangon ne sut que dire. Cette rêverie enfantine s'était emparée de lui, l'avait transporté. Et tout à coup, il n'avait plus été un navire, mais un petit garçon qui aurait joué dans sa coque et sur la plage, les poches pleines de cailloux brillants, de coquillages, de plumes de mouettes et de...
« Tu n'es pas ma famille et tu ne le seras jamais. »
Ces mots s'abattirent sur le rêve comme une lourde botte sur un papillon.
« Je le sais bien, » répondit-elle à mi-voix. « Ce n'est qu'un rêve, je te l'ai dit. C'est ce dont j'ai envie, mais, en vérité, j'ignore combien de temps je puis demeurer à Terrilleville et auprès de toi. Pourtant, Parangon, c'est le seul espoir que je vois de te sauver. Si j'allais trouver en personne l'élu de chance et que je puisse leur affirmer t'avoir entendu dire que ma solution te satisferait, peut-être accepteraient-ils mon offre, si peu mirifique soit-elle, à cause de leur lien avec toi.
Sa voix mourut alors que la figure de proue croisait les bras sur la cicatrice en forme d'étoile qui s'étalait sur la large poitrine.
« Me sauver de quoi ?»
demanda Parangon d'un ton dédaigneux.
« C'est une belle histoire pour enfant que tu m'as racontée, Ambre. Et je reconnais que l'image est charmante, mais je suis un navire. Je suis fait pour naviguer. Crois-tu que c'est par choix que je repose sur cette plage, à ne rien faire sinon vaciller au bord de la folie à cause de mon désœuvrement ? Non. Si ma famille décide de me vendre comme esclave, qu'au moins ce soit pour un travail qui m'est familier. Je n'ai aucune envie de te servir de maison de poupée. »
D'autant moins qu'elle venait de l'avouer, elle finirait par le quitter. Son amitié avec lui existait seulement parce qu'elle était retenue à Terrilleville par autre chose. Tôt ou tard, elle l'abandonnerait comme tout le monde. Tôt ou tard, tous les humains le désertaient.
Tu ferais mieux de retourner chez Davadrestart pour retirer ton offre,
reprit-il après un silence interminable.
Non.
Si tu m'achètes et que tu me laisses ici, je t'abominerai à jamais et je t'attirerai une malchance que tu ne peux même pas imaginer.
Ambre répondit calmement.
« Je ne crois pas en la chance, Parangon. En revanche, je crois au destin, et je pense que le mien a des aspects plus terrifiants et déchirants que tu ne peux, toi, l'imaginer. Tu es l'un d'eux, je le sais. C'est pourquoi, pour l'amour de l'enfant qui t'empête et profère des menaces, enfermé dans la carcasse de bois d'un navire, je vais t'acheter et te protéger, du moins autant que le destin me le permettra. »
Tout en parlant, elle avait plaqué sa main sur le vaigrage de la vive nef, et on ne sentait nulle frayeur dans sa voix, mais plutôt une tendresse étrange.
Contente-toi de faire un pansement, dit Kenith d'un ton brusque. « Ça va guérir. »
Etta secoua la tête, puis elle répondit d'une voix très douce. « Kenith, ça ne guérit pas. » Elle posa délicatement la main au-dessus de la blessure. « Ta cuisse est brûlante et sensible. Je te vois faire la grimace dès que je la touche. Ces liquides qui suintent ne m'évoquent pas les fluides de la guérison, mais plutôt... »«
Tais-toi. Je suis fort. Je ne suis pas une putain pleurnicharde confiée à tes soins. » La plaie va se cicatriser et tout ira bien. Pense-la ou non, ça m'est égal. Je peux m'en occuper tout seul, ou demander à Sorcor de s'en charger. En tout cas, je n'ai pas de temps à perdre à écouter tes propos de mauvais augure.
comme une violente rage de dents, une douleur fulgurante traversa sa jambe. Un hoquet de souffrance lui échappa et il agrippa les bords de sa couchette pour s'empêcher de crier. « Kenneth, il n'y a qu'une chose à faire, et tu le sais bien. » Etta avait pris un ton implorant. Il ne put répondre qu'après avoir retrouvé son souffle.
« La seule chose à faire, c'est de te jeter au serpent afin que je retrouve un peu de tranquillité dans mon existence. Va-t'en, sors d'ici et envoie-moi ce corps. Nous avons des plans à mettre au point et tes Jérémias ne m'intéressent pas. »
Elle fourra les bandages détrempés dans un panier et quitta la cabine sans un mot.
« Bon débarras !»
Kenneth tendit la main pour saisir la solide béquille appuyée contre le montant de son lit. Il l'avait fait fabriquer par Sorcor. Sa vue lui faisait horreur et elle était pratiquement inutilisable si le pont gîtait un tant soit peu. Mais par une journée calme, avec le navire à l'ancre comme il l'était à présent, il parvenait à se rendre de sa couchette jusqu'à la table aux cartes. Il la gagna à sautillement douloureux dont chaque saccade était comme un cautère appliqué sur son moignon de jambe, et, arrivé à la table, il transpirait à grosses gouttes. Il se pencha sur ses cartes en prenant appui sur le bord du plateau. On frappa à la porte.
« Sorcor, entre !»
Le second passa la tête par l'entrebâillement. Il paraissait inquiet. Mais à la vue de son commandant debout devant sa table, il eut le sourire ravi d'un enfant à qui on offre une friandise, et il s'avança un peu. Kenneth observa qu'il portait une nouvelle veste, encore plus surchargée de broderies que la précédente.
« Alors, ce guérisseur vous a fait du bien ?» dit Sorcor en fermant la porte derrière lui. « C'est bien ce que j'espérais. Les deux autres ne me disaient pas grand-chose. Si on doit se faire remettre en état... « Il faut trouver un vieux, quelqu'un qui a un peu vécu et qui... »«
Tais-toi, Sorcor !»
fit Kenneth sans y mettre la moindre agressivité.
« Il ne m'a pas été plus utile que les autres. Apparemment, la coutume danse au taureau veut que quand un guérisseur est incapable de traiter une blessure, il en inflige une autre ailleurs pour détourner l'attention de sa victime de son incompétence. Je lui ai demandé pourquoi il pensait pouvoir me guérir d'une nouvelle amputation... alors qu'il n'arrivait à rien sur la première, et il n'a pas su me répondre.
Kenneth haussa les épaules.
« J'en ai assez de ces charlatans de campagne. En outre, je guérirai sans doute aussi vite sans toutes leurs sangsues et leurs potions. »
Le sourire de Sorcor s'effaça lentement alors qu'il s'approchait de la table.
« Sans doute, »
acquiesça-t-il d'un ton lugubre.
« Le dernier me l'a d'ailleurs laissé entendre, » affirma Kenneth.
« Oui, parce que tu l'as menacé jusqu'à ce qu'il tombe d'accord avec toi. » Intervint Etta d'un ton aigre en s'encadrant dans l'entrée de la cabine.
« Luttez donc, Sorcor. Dites-lui de laisser les guérisseurs l'amputer plus haut, au-dessus de la gangrène. Il vous respecte, il vous écoutera. »«
Etta, sors d'ici. »«
Je n'ai rien à faire dehors. »«
Eh bien, va t'acheter quelque chose en ville. Sorcor, donne-lui de l'argent. »«
Je n'en ai pas besoin. »
À Anse au taureau, tout le monde sait que je suis ta compagne, et je ne peux pas poser les yeux sur le moindre objet sans qu'on me le fourre aussitôt entre les mains en me suppliant de l'accepter.
Mais je n'ai envie de rien, sinon de te voir recouvrer la santé.
Kenneth poussa un grand soupir.
Sorcor, s'il te plaît, fais sortir cette femme et ferme la porte.
Non, Kenneth, je vais me taire, je t'en prie. Laisse-moi rester, ou alors... « Parlez-lui, Sorcor. Raisonnez-le, vous. Il vous écoutera. »
Pendant qu'elle gémissait comme un chien malade, le second la poussa sans brutalité hors de la cabine et verrouilla la porte sur elle. Kenneth n'aurait pas fait preuve d'autant de douceur s'il avait été en mesure de s'en charger lui-même. Mais évidemment, tout le problème était là. Elle le considérait comme faible désormais et s'efforçait d'imposer sa volonté en tout. Depuis qu'elle avait torturé ses prisonniers, il la soupçonnait de prendre plaisir à découper en morceaux un homme réduit à l'impuissance, et il se demanda s'il n'y aurait pas moyen de l'abandonner à Anse au taureau.
Et quelle est la situation en ville ?
Fit-il sur le ton de la conversation, comme si Sorcor venait d'entrer. Le second le regarda fixement un moment sans répondre. Puis, apparemment, il décida de ne pas contrarier son commandant.
« Ça ne pourrait mieux aller.
sauf si vous descendiez en personne à terre pour parler aux commerçants. C'est tout juste s'ils ne nous supplient pas de vous prier d'être leur hôte. Je vous l'ai déjà raconté. Quand ils ont vu notre pavillon aux corbeaux entrer dans le port, ils nous ont ouvert la ville. Il y avait des petits garçons qui criaient votre nom sur le quai. « Capitaine Kenneth ! Capitaine Kenneth !» J'en ai entendu un dire à son copain que, comme pirate, vous étiez encore meilleur que Ygrot le Terrible.
Kenneth tressaillit puis se renfrogna.
« J'ai connu Ygrot quand j'étais adolescent. Sa réputation est exagérée, »
fit-il à mi-voix.
« N'empêche, c'est quelque chose d'être comparé à l'homme qui a incendié 20 villes et... »
Kenneth l'interrompit.
« Assez parlé de ma renommée. Comment vont nos affaires ?»«
Les habitants nous ont largement réapprovisionnés, et le Cicerne est déjà caréné pour réparation. »
Le robuste pirate secoua la tête.
« Sa coque est pleine de pourriture. C'est d'ailleurs bizarre que le gouverneur confie un cadeau à un rafiot dans un état pareil. »«
À mon avis, il ne l'a pas inspecté personnellement. »
rétorqua Kenneth d'un ton sec.
« Et les gens d'ici ont bien accueilli la nouvelle population que nous avons amenée ?»«
À bras ouverts. À la dernière razzia des trafiquants d'esclaves, ils ont perdu leur meilleur forgeron de la ville, mais on leur en a apporté de nouveaux. Quant aux musiciens et compagnie, on ne parle que d'eux. Ils ont déjà joué 3 fois la libération du Cicerne, avec un chouette jeune homme qui tient votre rôle et un grand serpent fait avec du papier, de la soie et des douves de tonneau, qui sort tout droit... »
Sir Cor s'interrompit brusquement.
« La pièce fait un tabac, capitaine. Je crois bien qu'il n'y a pas une personne en ville qui ne l'ait pas vue. » »«
Tu me vois ravi que la perte de ma jambe divertisse tant de monde ?»«
Non, c'est pas ça, capitaine. »
répondit Sir Cor précipitamment, mais Kenneth l'interrompit d'un signe.
« Ma vive nef !»
dit-il.
« Oh, Sar !»
gémit le second.
« N'avions-nous pas un accord ?»
lui demanda Kenneth.
« Nous venons de capturer un transport d'esclaves et d'en libérer les passagers, il me semble. Par conséquent, si ma mémoire est bonne, c'est mon tour de partir à la chasse à la vive nef. »
Sir Cor se gratta le crâne.
« Ce n'était pas exactement ça le marché, capitaine. Si on voyait un transport d'esclaves, on lui tombait dessus, et ensuite, on poursuivait une vive nef si on en croisait une. Là, vous parlez d'en chasser une exprès ou de lui tendre un piège. »
Kenneth repoussa l'objection d'un geste négligent.
« Ça revient au même. »«
Non, sauf votre respect, capitaine, ça revient pas au même. J'y ai un peu réfléchi. » Et peut-être qu'on devrait jeter l'ancre un moment, recommencer la piraterie comme avant, courir après les gros marchands, se remplir les poches, s'amuser et oublier les esclaves et les serpents. »
Tout en tripotant de ses gros doigts les boutons dorés de sa veste, Sir Cor ajouta
« Vous m'avez montré que la vie peut être différente de ce que je croyais pour nous deux. Vous avez une chouette femme et ça change pas mal de choses à bord. Je me rends compte maintenant de ce que vous essayez de me faire comprendre. Si on retournait à Partage avec une belle calée de marchandises, eh bien, comme disait Sinker Faldin quand il parlait d'avoir l'air respectable, avec pignon sur rue et tout...
Une fois que nous serons en possession d'une vive nef, tu n'auras que l'embarras du choix pour les vierges, Sir Cor,
promit Kenneth.
Tu pourras en avoir une nouvelle chaque semaine, si c'est ce qui te tente. Mais d'abord, ma vive nef, et tout de suite. Si nous tenons pour exact ce que nous a appris l'équipage du Cicerne, il nous en reste probablement une au sud. Viens examiner les cartes. J'ai l'impression que la chance nous a placés en excellente position. Au sud, là, c'est le chenal de l'Ossière. C'est un passage difficile en toute occasion, mais surtout au changement de marée, et un navire qui remonte vers le nord est obligé de le franchir. « Tu vois ?»«
Oui, »
répondit Sir Cor à contre-cœur. Sans prêter attention au ton contraint de son second, Kenneth poursuivit.
« Là, au milieu du chenal, nous avons l'île Tordue. et il faut prendre par l'est pour la contourner dans les meilleures conditions. Il y a quelques hauts fonds, mais ils ne se déplacent pas trop vite. Par l'ouest, c'est une autre paire de manches. Le courant y est fort, surtout au changement de marée. Et près de l'île, les bancs de sable apparaissent et disparaissent constamment. C'est aussi à l'ouest de ce passage que se trouvent les récifs maudits qui portent bien leur nom.
Il se tut un instant.
« Tu te les rappelles ?»
Sorcor fronça les sourcils.
« Je ne suis pas prêt de les oublier. C'est par là que vous nous avez conduits le jour où la galère du gouverneur nous a pris en chasse. On a été embarqués par le courant et le bateau a passé les récifs comme une flèche. Il a fallu 3 jours pour arriver à me convaincre que j'en étais sorti vivant. »
« En effet, nous avons été beaucoup plus vite que si nous avions emprunté le passage de l'Est. »
« Et alors ?»
demanda Sorcor méfiant.
« Alors ? Eh bien, nous nous ancrons ici, d'où nous avons une vue imprenable sur l'entrée du chenal de l'Ossière. Dès que nous repérons la vive nef en train d'y pénétrer, nous empruntons le passage ouest, et quand la vive nef sort de celui de l'est, elle tombe nez à nez avec nous, ancrée au milieu du chenal. Le courant est fort, même dans le passage est, et notre proie n'aura pas d'autre solution que d'aller s'échouer là, sur ces hauts fonds. »
Il leva les yeux de la carte et croisa le regard grave de Sorcor avec un large sourire.
« Et elle sera à nous, à peine abîmée, si même elle a subi des avaries. Sauf si elle nous éprône d'abord, »
observa Sorcor d'un ton lugubre.
« Elle ne nous éprônera pas, »
répondit Kenneth avec assurance.
« Et même si c'était le cas, il nous suffirait de monter à son bord et de partir avec elle. »
« En perdant la Marietta ?»
Sorcor était horrifié.
« En gagnant une vive nef ?»«
Ça ne me plaît pas. Ça pourrait tourner mal de 100 façons, »
objecta Sorcor.
« On pourrait bien se faire mettre en pied sur les récifs maudits. Oh, je n'ai vraiment pas envie de retourner dans ce coin-là. Et si le tirant d'eau de la vive nef est plus faible que le nôtre, on aura pris tous ces risques pour l'avoir nous filé sous le nez, sans avoir même le temps de lever l'ancre. Et puis... »
Kenneth n'en croyait pas ses oreilles.
Il était sérieux. Il croyait à ce qu'il disait. Il rejetait son plan. Comment osait-il?
Sans Kenneth, il ne serait rien, rien du tout. Un instant plus tôt, il proclamait qu'il devait tout à son commandant, et maintenant, il lui refusait l'occasion de s'approprier une vive nef.
Le capitaine pirate entrevit soudain une autre tactique.
Il leva la main pour interrompre le flot de paroles de son second. « Sorcor, m'aimes-tu un peu ?»
demanda-t-il avec une franchise désarmante. La question réduisit Sorcor au silence, comme il l'avait prévu, et le second faillit rougir. Il ouvrit la bouche comme un poisson hors de l'eau, puis bredouilla
« Ben, capitaine, ça commence à faire un moment qu'on navigue ensemble, et je connais personne d'autre qui se soit montré plus équitable avec moi, ni qui... »
Kenneth secoua la tête, puis détourna les yeux comme s'il était ému.
« Eh bien, personne d'autre que toi n'acceptera de m'aider à réaliser ce projet, Sorcor, et je n'ai confiance en nul autre autant qu'en toi. Depuis mon enfance... je rêve de posséder une vive nef, et j'ai toujours cru qu'un jour je me tiendrais sur le pont de l'une d'elles et qu'elle m'appartiendrait. Et puis... »
Il baissa les yeux et prit une voix plus rauque. « Parfois, on craint que la fin ne soit plus proche qu'on ne l'avait escompté. Ma jambe, si ce qu'on dit est vrai... » Il releva le visage et ouvrit grand ses yeux bleus pour les planter dans le regard sombre de Sorcor.
« C'est peut-être ma dernière chance, »
fit-il simplement.
« Ne parlez pas comme ça, capitaine !»
Et des larmes jaillirent des yeux du vieux loup de mer. Kenneth se mordit durement la lèvre pour réprimer un sourire triomphant et se pencha sur la table pour dissimuler son visage. Geste imprudent. Sa béquille glissa. Il se rattrapa au bord de la table, mais l'extrémité de son moignon gangréné heurta le plancher. Il poussa un cri de souffrance et il serait tombé si Sorcor ne l'avait pas saisi à bras-le-corps.
« Du calme, je vous tiens, du calme !»« Sorcor !»
fit Kenith d'une voix défaillante. Il agrippa la table aux cartes et prit lourdement appui sur les bras de son second pour éviter de s'effondrer.
« Peux-tu m'aider ?»
Il leva la tête. Il se sentait tremblant, sans doute à cause de l'effort qu'il avait dû fournir pour rester debout. Il n'y était pas habitué, voilà tout. En tout cas, il n'allait certainement pas mourir de sa blessure. Il allait guérir, comme il guérissait toujours, quelle que soit la gravité de son état. Il n'était pas en mesure d'empêcher le rictus de souffrance qui tordait ses traits, ni la sueur qui emperlait son visage, mais il pouvait les tourner à son avantage.
« Veux-tu me donner cette dernière chance ?»«
Oui, capitaine. »
Dans le regard de Sorcor, la foi aveugle le disputait à la peine.
« Je vais vous la capturer, cette vive nef, et vous montrer dessus. Faites-moi confiance !»
ajouta-t-il d'un ton implorant. Malgré la douleur, Kenith ne put contenir un éclat de rire, qu'il déguisa aussitôt en quinte de toux.
« Lui faire confiance !»« Ai-je le choix ?»
se demanda-t-il avec amertume, et sans le faire exprès, il prononça ces mots tout haut. Il porta vivement le regard vers Sorcor qui le contemplait d'un air inquiet, puis il plaqua un sourire maladif sur ses lèvres et s'efforça de mettre de la chaleur dans sa voix. Il secoua la tête.
« Depuis le temps que nous nous connaissons, Sorcor, à qui d'autre que toi ai-je jamais fait confiance ? Non, je n'ai pas le choix. Je dois encore une fois t'imposer le fardeau de notre amitié. »
Il tendit la main, saisit sa béquille, puis s'aperçut qu'il était incapable de la tenir fermement. Le processus de guérison de son moignon épuisait toute son énergie. Il cligna les yeux, les paupières lourdes.
« Je dois aussi te demander ton aide pour regagner mon lit. Les forces m'abandonnent. »«
Capitaine !»
fit Sorcor, et il y avait dans sa voix toute l'abjecte affection d'un chien pour son maître. Kenith emmagasina cette pensée dans un coin de son esprit pour y réfléchir quand il se sentirait mieux. Curieusement, en demandant l'aide de Sorcor, il avait rendu le second plus dépendant de son opinion que jamais. Il avait bien choisi l'homme. À sa place, il aurait sauté instinctivement sur l'occasion de s'emparer du pouvoir. Heureusement pour Kenith, Sorcor n'avait pas l'esprit aussi vif que lui. Gêné, le second se courba et prit carrément son capitaine dans ses bras pour le transporter jusqu'à son lit. Sous l'effet du mouvement inattendu, la douleur monta encore d'un cran, et Kenith s'agrippa aux épaules de Sorcor, tandis qu'une vague de vertige déferlait sur son esprit. L'esprit d'un instant, il revécut un souvenir ancien, où son père, les favoris noirs, la laine alcoolisée, empestant le marin, dansait en tournoyant follement avec le petit Kenith dans les bras. C'était une époque à la fois terrifiante et heureuse.
Sorcor le déposa délicatement sur sa couchette.
« Je vais chercher Eta, d'accord ?»
Kenith acquiesça d'un faible hochement de tête, tout en cherchant à retenir la vision de son père. Mais la chimère de son enfance voilée continua de danser en se moquant de lui. Et un autre visage se pencha sur lui, élégant, avec un sourire ironique.
« Voilà un gamin qui promet. » On arrivera peut-être à en faire quelque chose. »
Il rejeta la tête contre son oreiller et chassa le souvenir de son esprit. La porte se referma sur le second.
« Tu ne mérites pas d'être entouré de gens pareils, » fit une petite voix. « Je ne comprends pas qu'ils t'aiment à ce point. Je dirais volontiers que je me réjouirais de ta chute le jour où ils découvriront la vérité sur ton compte, mais... « Malheureusement, ce jour-là, eux, ils auront le cœur brisé. »« Quelle chance te vaut d'avoir de tels fidèles ?
D'un geste là, il leva son poignet à hauteur de ses yeux. Le visage miniature du bracelet serré sur son pouls le regardait sans aménité. Et Kennit ne put retenir un bref éclat de rire devant son expression indignée.
« La mienne, celle qui réside dans mon nom et court dans mon sang, voilà la chance qui me vaut leur fidélité. »
Il se remit à rire d'un rire plein de dérision.
« La fidélité d'une putain et d'un brigand, la belle affaire !»«
Ta jambe est en train de pourrir, de se décomposer jusqu'à l'os, » fit le petit visage avec une méchanceté brutale. « Elle va puer, suinter et dévorer la vie de ta chair. » Tout ça parce que tu n'as pas le courage d'amputer la partie corrompue de ton corps. »
Il eut un sourire sardonique.
« Saisis-tu ma parabole, Kennit ?»«
La ferme !»
répondit l'intéressé. Il s'était mis à transpirer, à suer dans sa belle chemise propre, dans son beau lit propre, à suer comme un vieil ivrogne puant.
« Si je suis mauvais, que dire de toi ?» Car tu fais partie intégrante de moi.
Le bois dont je suis issu avait un corps noble autrefois, repartit l'amulette. Tu y as plaqué tes traits, et c'est ta voix qui sort de ma bouche. Mais le bois n'oublie pas. Je ne suis pas toi, Kennit, et je fais le serment de ne jamais le devenir.
Personne ne te l'a demandé.
Le souffle lui manquait. Il ferma les yeux et sombra dans l'inconscience.